Le sujet aujourd'hui, c'est la moisson des hommes. Jésus est en train de faire une moisson. Il est en train de moissonner des hommes. Quand on parle de moisson, on parle de récolte. On parle de couper le foin qui est mûr, qui est déjà en épi, puis il ramasse dans ses greniers. Jésus est en train d'amasser dans ses greniers des gens qui vont être avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Puis on est entré dans cette moisson-là, on est là, on a été récolté, on a été appelé, on a répondu à l'appel, il a changé notre vie, puis là, il veut nous utiliser à moissonner les âmes. Amen.
Amen.
Il y a actuellement une immense guerre qui est en train de se dérouler, puis je parle pas de la guerre entre les humains pour des territoires, il y a encore beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus grave comme impact que cela. C'est une guerre pour le salut ou la perdition des âmes. Il y a une guerre présentement dans le but d'arracher de la puissance des ténèbres, de l'arracher de la puissance des mains du diable, les âmes, pour les amener dans le royaume de Dieu, pour qu'ils puissent être libérés des conséquences de leurs péchés. C'est une guerre que Dieu a commencé à révéler sa volonté, révéler sa parole depuis le début de la création, puis que depuis le début de la création, il y a des gens qui ont compris que Dieu existe, puis que Dieu devait être servi, puis qui ont cru en son message, puis ont marché par la foi. Il y a du monde qui marche pour Dieu depuis le début de la création. Mais particulièrement depuis le temps de Jésus, il y a une moisson qui est commencée, une riche moisson. Puis là, il y a des gens qui ont accepté Jésus en multitude, qui sont venus à Christ. 3 000 d'un shot, ça a monté à 5 000. Puis là, à travers la terre, depuis 2000 ans, Dieu est en train de faire une moisson. Il est en train de récolter des âmes, d'arracher des gens du royaume des ténèbres, puis pardonner leurs péchés, puis leur donner la possibilité d'entrer dans la vie éternelle. Puis c'est tout cela, c'est à cause de Jésus. Puis là, il y a une question qu'on se pose. Qui moissonnera les gens avec Dieu? Qui va aller au-devant du monde pour parler du message de Dieu? Ça, pour comprendre l'importance, pour comprendre la profondeur de l'histoire, il faut voir les révélations que Dieu nous a données dans sa parole. Il y a un verset que je vais vous lire, là, c'est une révélation du futur, une image du futur, un futur qui n'est pas si loin que ça. Puis quand on va voir cette image-là, il faut s'arranger pour pas être là. C'est pas des farces que ce que je vous dis là. C'est dans l'Apocalypse, cette révélation-là du futur, dans l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 11, 12 et le verset 15. Il y a une triste réalité, je vais vous dire un mot avant d'aller lire le passage. Il y a une triste réalité qu'une très grande partie de l'humanité est perdue, puis que les gens iront dans l'étang de feu à cause de la dette de leur péché qui n'est pas réglée. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 et 12. C'est une vision du futur que l'apôtre Jean a eue puis qu'il a écrit dans son livre. Ça dit, « Puis je vis un grand trône blanc. » Il a vu une vision, puis il a vu le trône de Dieu, le grand trône blanc. C'est le trône du jugement dernier. Frères et sœurs, c'est une vision qui va s'accomplir. Il a vu un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, il a vu Jésus-Christ assis sur le trône. La terre et le ciel d'actuel là, s'enfuirent devant sa face, puis il ne faut plus trouver de place pour eux. Tout ce qui existe dans ce qu'on connaît va disparaître. Autant la terre et l'univers au complet, Dieu va tout rouler ça, il va tout jeter ça pour recyclage, je ne sais pas comment ce qu'il fait. Il va rouler ça, puis il va tout enlever ça. Ça va être le vide total du monde existant. Ça n'existera plus. Ça dit, le ciel et la terre s'enfuient devant sa face, puis il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis, là on voit les morts. Ça, ces morts-là, faut que je vous le dise tout de suite, c'est les morts qui n'ont pas participé à la première résurrection. J'ai parlé de la première résurrection. la résurrection des croyants, lorsque Jésus-Christ reviendra, la première batch qui ressuscite pour revenir avec Jésus, puis demeurer éternellement avec Jésus, puis nous les vivants, on va les retrouver. Ça, c'est la première résurrection. Mais ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection, c'est parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas pardonnés de leurs péchés. La dette de leurs péchés n'était pas réglée. Ils sont morts, puis ils sont en attente d'être ressuscités. Dans ce passage-là, verset 12, dans Apocalypse 20, ça dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, le grand trône blanc, devant Jésus. » Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire que tout le monde qui sont morts, le livre n'est pas effacé. Leurs péchés ne sont pas effacés. Ils sont morts devant Dieu, non pardonnés. Puis là, ça dit que des livres furent ouverts, des livres de vie étaient ouverts, puis les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, tout ce qu'on a fait dans notre vie, en secret comme en plein jour, va être révélé devant le grand trône blanc, puis tous ceux qui n'ont pas été pardonnés de leurs péchés vont être jugés selon leurs œuvres. Ils vont avoir à rendre compte de ce qu'ils ont fait, de chaque parole, chaque action qu'ils ont faite sur cette terre. C'est le jugement dernier. Puis le pire de tout cela, c'est deux versets plus loin, le verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Wow! La Bible nous dit qu'il y a un livre qui est là, il y a des livres, le livre où sont écrites toutes nos œuvres, c'est un symbole pour nous dire que Dieu n'a rien oublié de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, à part si tu as été pardonné. Si tu passes par Jésus, t'es pardonné. T'es lavé de tes péchés, Dieu s'en souvient plus. T'es pas là dans ce batch de monde-là parce que tu as participé à la première résurrection. Mais les autres ont à rendre compte pour leur action, puis ils ont à rendre compte de chacune de leurs actions. Puis ça nous dit qu'un livre qui s'appelle le livre de vie, quiconque son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. La Bible nous en parle dans d'autres passages de l'étang de feu. C'est été créé pour le diable et pour ses anges. L'étang de feu, c'est un jugement éternel où ce que le diable et ses démons vont être jetés là pour l'éternité. Puis qu'il y a des humains que leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie qui vont être jetés à la même place. C'est-tu terrible? C'est terrible, parce que là, la Bible appelle ça la seconde mort. T'as la mort physique, puis t'as la mort éternelle, d'être séparé de la présence de Dieu. Les gens qui vont être jetés là ne verront jamais le paradis, le ciel, la présence de Dieu, la joie, la paix, l'amour de tous les rachetés, de ceux qui sont sauvés, vont vivre cela, mais les autres qui sont morts dans leurs péchés sont privés de tout cela. C'est pas parce que Dieu voulait pas les sauver. Dieu veut sauver l'humanité tout entière. On va le voir dans un passage. C'est que les gens ont rejeté la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée. Cette bouée-là s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Messie qui devait venir. C'est le seul médiateur. C'est le seul intermédiaire par lequel qu'on peut atteindre Dieu. Si tu veux aller à Dieu, faut que tu passes par Jésus. Si tu veux être pardonné de tes péchés, il faut que tu passes par Jésus. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut que tu passes par Jésus. Jésus le dit à ses disciples. Réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux. Il est inscrit où? Dans le livre de vie. C'est le livre que tous ceux que le nom est inscrit dans le livre de vie, ils n'iront pas dans les temps de feu. Ils connaîtront pas la seconde mort. On a eu peur à la première résurrection, puis on va vivre avec le, ainsi avec le Seigneur toute l'éternité. Mais la triste réalité, c'est qu'il y a une très grande partie de l'humanité qui sont perdus. Plus de monde perdu que de monde sauvé. C'est pas des farces. Puis ils iront dans l'étang de feu à cause que la dette de leur péché n'a pas été payée. Ça n'a pas été réglé. Ils n'ont pas été voir le Messie pour le recevoir. Ils suivent leur religion, ils suivent leur pensée, leur philosophie, leur manière de voir, plutôt que de se soumettre à ce que Dieu nous a révélé dans la parole de Dieu. C'est ça qui est l'important, ce que Dieu a révélé dans la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre vont disparaître, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Fait que cette image-là de l'Apocalypse, c'est plus solide que le ciel et la terre. Le ciel et la terre vont disparaître, ça le dit dans le passage. Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face, puis il ne faut plus trouver de place pour eux. Parce qu'on pense, on est sur les deux pieds sur la terre, on est sur du vrai. Non, tu es sur du passager. Ça va disparaître, Dieu va tout enlever ça. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Puis ceux qui ont mis leur foi dans la parole de Dieu vont vivre éternellement. Puis dans la parole de Dieu, ça nous annonce le salut par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller dans la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Quand il est venu, là, il existait avant d'arriver sur la terre. Jésus, il était là, auprès de son Père, dans le ciel. Puis c'est lui que la Bible nous dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui est la lumière des hommes. C'est Jésus. Puis on voit ça dans le début de l'évangile de Jean, les premiers versets. Jésus était dans le ciel avec son Père. Puis là, Dieu, il nous dit dans un passage dans Hébreu que Dieu, il trouvait rien d'agréable dans les sacrifices que les humains offraient à Dieu. Fait que là, Jésus a parlé à son Père, il a dit dans Hébreu 10, 5 à 7, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il a dit, t'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait un seul but, venez faire la volonté de Dieu son Père. Faut comprendre cette idée-là, que Jésus n'est pas venu faire son trip. Son voyage sur la terre, ni se divertir, ni profiter de la vie comme nous, on agit, on profite de ce qui est là, on joue à des jeux, on écoute la TV, on part en voyage, on visite le monde. Il y a l'histoire de la vie terrestre, là, est là. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il est pas venu pour faire sa volonté, il est venu pour faire la volonté de son Père. On va comprendre le parallèle en lisant l'autre passage qui va avec ce passage-là. Dans Jean 4, 31 à 34, on va voir que Jésus, il se nourrissait de faire la volonté de son Père. C'était comme sa raison de vivre, sa mission, il la comprenait entièrement. Il savait là, ce qu'il en était du sort de l'humanité. Il savait que l'humanité s'en allait dans l'étang de feu, dans le jugement éternel. Il savait tellement très bien que c'est lui qui a tout créé cela. Il est le créateur de toute chose, Jésus. Puis il a été établi chef et juge pour juger la planète. Tout le monde va comparaître devant Jésus. Puis tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur. Mais Jésus, lui, quand il est venu sur la terre, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Mais on va voir que Jésus, son désir, sa nourriture, c'était seulement que faire la volonté de son Père. Regardez dans Jean 4, 31, on va comprendre dans quoi que Jésus, ce que Jésus voulait nous enseigner dans ce chemin-là, de la volonté de son Père. Pendant ce temps, ça, Jésus rencontre la femme samaritaine dans le chapitre 4 de Jean. Puis là, c'est au chapitre 4 de Jean, mais dans le verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voyez-vous le parallèle avec le passage dans Hébreux? Il dit, « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Puis dans le rouleau du livre, il est question de moi, « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus est venu sur la terre, pas pour sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Puis là, on se retrouve dans Jean au chapitre 4, et il dit, « J'ai mangé une nourriture que vous connaissez pas, puis ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Il comprenait sa mission, il comprenait sa raison de vivre, il comprenait le but qu'il avait à atteindre sur la terre, c'était de faire la volonté du Père. Là, waouh, là, on dit, on vient de tomber, on veut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu, là. Jésus vient de nous dire que lui est en train de la faire, la volonté du Père. C'est quoi ça qu'il est en train de faire, Jésus? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire quand il a dit, je cite, puis je me nourris de vivre puis travailler pour le royaume, travailler pour la volonté de mon Père? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire au moment où ce qu'il nous dit cela? Regardez l'autre verset. Dans Jean 4, 35. Là, faut comprendre que dans ce passage-là, Jésus est en train, il venait d'évangéliser la femme samaritaine. Puis il y a plusieurs personnes qui ont cru à cause qu'il a évangélisé la femme samaritaine, puis la femme samaritaine, elle a évangélisé ses amis, puis il y en a plusieurs qui ont cru au témoignage de Jésus à cause du témoignage de la femme samaritaine. Puis Jésus, il dit, « Je suis en train de me nourrir, de faire la volonté de mon Père. » Il dit, « Je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'évangéliser. Là, il confirme cette parole-là en disant l'autre verset, au verset 35, que le temps de la moisson il est déjà commencé, le temps de moissonner des âmes est déjà commencé. Jésus dit ça à ses disciples. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » De quel champ qu'il est en train de parler? Du champ d'orge ou du champ de blé qui est à côté? Pas du tout. Il est en train de parler des âmes qui sont en train de recevoir la semence, la parole de Dieu, puis la foi naît dans leur cœur, puis les gens répondent à l'appel de Dieu, puis ils ont confessé leur foi en Jésus. Plusieurs ont cru au témoignage de Jésus. Là, Jésus dit, « Je suis en train de me nourrir de nourriture que vous connaissez pas. » Puis il dit, « Je suis en train de faire la volonté de mon Père. » Puis là, il voit des âmes venir au Seigneur. Puis il dit, « Regardez, la moisson est déjà là. Levez vos yeux, regardez la moisson qui est en train de mûrir pour le salut des âmes. » La volonté du Père, c'était de sauver les âmes. Semer la parole de Dieu, puis amener des âmes à la foi. Amen.
Amen.
Puis il continue, Jésus, il s'arrête pas là dans son enseignement. L'autre verset avec, le verset 36, ça nous dit que Jésus promet un salaire éternel pour ceux qui travaillent à la moisson des âmes. Dans Jean 4, 36, il dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Quand tu rentres dans le travail de Dieu, quelle est la volonté de Dieu selon ce passage-là? Jésus dit, je suis en train de la faire. Puis regardez l'œuvre qui est en train de se passer. La semence est répandue, les gens répondent avec foi, la moisson est déjà commencée. Puis il dit, celui qui travaille reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui moissonner, savez-vous c'est quoi la différence entre semer et moissonner? Semer, c'est de répandre la bonne nouvelle. Puis moissonner, c'est de recevoir les âmes qui acceptent Jésus. Tu les reçois, puis tu t'en occupes. Parce qu'il y a encore du temps à passer sur la terre. C'est ce que les églises font présentement. Ils moissonnent des âmes, il y a des nouvelles brebis qui se rajoutent, puis l'enseignement est donné. C'est ça la moisson. Quand la première moisson a commencé, entre parenthèses, la grande moisson qui s'est passée, puis que c'était une fête à la fête de la moisson, les prémices de la moisson. Suite après que Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. » Mais 10 jours plus tard, là, il priait pour l'avoir. 10 jours plus tard, la puissance de Dieu est tombée sur eux. Pierre sort sur le perron. Il y avait une foule qui était assemblée à cause du vent impétueux qu'il y a eu, puis il s'est passé à brasser, il s'est passé un signe visible. Tout le monde parlait en langue, puis il y avait plein de monde qui s'est assemblé. 3000 personnes qui étaient là et plus qui étaient là rassemblées. Pierre sort sur le perron, commence à leur prêcher le message de l'Évangile. 3000 personnes touchées par la puissance du Saint-Esprit, puis ils ont accepté Jésus-Christ. C'était la première moisson, une riche moisson. C'était la journée de la Pentecôte, qui est la fête des prémices. C'était une fête dans l'Ancien Testament, que c'est la journée de la fête des prémices. Tes premières récoltes, t'es apportais, puis t'es offrais à Dieu. C'était pas une coïncidence. Autant que la fête de Pâques, la journée de Pâques, Jésus a été l'agneau immolé la journée de Pâques. Puis 50 jours plus tard, c'est la fête de la Pentecôte. Puis c'était la fête de la Pentecôte qu'il y a eu les premières récoltes de 3000 âmes qui ont accepté Jésus-Christ puis qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Ça serait extraordinaire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il faut être ouvert. Dieu peut faire encore les mêmes choses aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? C'est qu'ils se sont mis à prier. Ils voulaient l'avoir, la puissance. Je vais en parler un peu la semaine prochaine. C'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'il y a une moisson qui est déjà commencée. Jésus a dit déjà, levez vos yeux, là. Déjà, la moisson est commencée. Les champs blanchissent pour la moisson. Quand c'était rendu blanc, ils ramassaient. Mais quand tu vois des âmes qui répondent par la foi, c'est le temps de ramasser. Mais pour y arriver, faut semer, prier, puis on va le voir un peu plus loin dans d'autres idées. Jésus a dit à ses disciples, celui qui moissonne, celui qui ramasse des brebis de même, qui a des nouvelles brebis qui acceptent Jésus, il ramasse un salaire pour la vie éternelle. Il se ramasse des récompenses pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il faut pas se relâcher d'évangéliser. Faut parler, faut semer. C'est quoi ce semer? Qu'est-ce que semer?
Parler de Dieu.
Parler de la parole de Dieu. D'en parler, de l'écrire sur Internet, de passer des pamphlets. Toutes les méthodes sont bonnes. C'est de répandre. Semer la parole. Puis lorsqu'on récolte, il dit celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ils sont contents d'avoir une récolte. Un homme. Amen. Puis quand il y a un homme qui accepte Jésus, il y a un verset qui nous dit, il y a plus de joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans le ciel, il y a un party, puis c'est devant les anges de Dieu qu'il y a de la joie. C'est qui est devant les anges de Dieu? C'est Dieu lui-même. Dieu est dans la joie quand il y a une âme qui accepte Jésus. Il a travaillé fort, puis les disciples aussi, pour amener des âmes. Puis quand il y en a un qui accepte, Dieu est heureux, il est content, il saute de joie. Il y a de la joie dans le ciel quand un homme accepte Jésus. Faut pas penser que c'est rien. Il est venu à l'église, il a accepté Jésus. Pour nous, si on regarde ça à l'œil humain, oh non, pas un autre de plus à m'occuper. Parce qu'il y en a à l'œil humain, c'est ça. Mais à l'œil de Dieu, un homme de plus qui a quitté le royaume des ténèbres, qui est rendu dans le royaume de Dieu, il est sauvé, il est pardonné de ses péchés, son nom est inscrit dans le livre de vie, puis il va être avec nous pour l'éternité. Gloire à Dieu! C'est ça qui est le côté spirituel de voir un homme sauvé. Oui. Le travail de la moisson, c'est la moisson des âmes, c'est un travail individuel puis un travail d'équipe. C'est les deux types de travail que dans ce travail-là. Parce que l'autre verset suivant, Jésus l'explique dans Jean 4, 37. Il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé puis vous êtes entrés dans leur travail. Mais il y en a qui sèment, puis il y en a qui moissonnent. Des fois, on dit, « Ah, mais ils viennent d'accepter le Seigneur suite à ce que j'y ai parlé. » Là, on est content. Mais il ne faut pas oublier que ce gars-là, c'est pas la première fois qu'il entend parler du Seigneur. Il y en a peut-être eu 5 qui ont parlé du Seigneur. 5 qui ont semé la parole dans sa vie. Peut-être à la télévision, à la radio, sur Internet, des contacts de même que Dieu a envoyé quelqu'un pour y parler. Il y a du travail. Il y en a qui sèment, puis il y en a qui moissonnent. Celui qui moissonne, lui, il se pense plus béni, mais on n'est pas plus béni. Pourquoi? Parce que dans l'autre verset qui était un petit peu avant, il dit, « Celui qui sème et celui qui se moissonne se réjouissent ensemble. » Un jour, mais qu'on arrive l'autre bord, on va réaliser que oui, c'est vrai qu'elle était assise dans notre église, cette personne-là, mais il y a du monde qui ont parlé de Jésus avant qu'elle vienne s'asseoir dans l'église. Ils ont parlé de Jésus. Il y a du monde qui ont semé avant. Fait qu'il y a un travail individuel qui se fait, qu'il y a du monde qui ont rencontré quelqu'un sur un coin de rue, ils ont passé un pamphlet. Bon, il a lu ça, mais ça n'a pas changé sa vie. 6 mois plus tard, il y en a un autre qui arrose, il sème la parole. Un autre 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, il y en a un autre qui passe, lui, il parle de Jésus, puis là, il accepte Jésus, puis là, il moissonne. Mais mec, on arrive l'autre bord, il dit, celui qui sème puis celui qui moissonne vont se réjouir ensemble. La bénédiction va être pour le travail d'équipe. On est en travail d'équipe, ça, on va peut-être le développer un peu plus tard dans un autre message, pour comment est-ce qu'on est en équipe avec Dieu et avec le corps de Christ. Tout le monde travaille. Si une personne, mettons, fait un café, on a fait un café hier. Il y a eu 4 nouvelles personnes qui sont venues dans le café. Puis, ça nous dit que dans les 4, il y en a qui, la première fois qu'ils allaient dans une réunion comme cela, qui parlent du Seigneur ouvertement, puis on loue le Seigneur, puis on explique des choses sur Dieu. Moi, je suis en avant, je chante des chants, j'explique des affaires. Vous autres, vous êtes assis là, puis vous assisez à côté, puis vous commencez à jaser avec cette personne-là, vous expliquez des affaires. Voyez-vous, il y a un travail d'équipe dans le salut des âmes. C'est pas juste au pasteur en avant à expliquer des affaires. Non, tout le monde participe. Il y a quelqu'un qui a emmené cette personne-là ici. Fait qu'il en a parlé avant. Puis peut-être que c'est un poster ou une affiche ou un pamphlet que cette personne-là a reçu. Fait qu'à quelque part, il y a du monde qui ont travaillé pour répandre le pamphlet. L'autre l'a invité. L'autre, peut-être qu'il y a un autre ami qui a dit, qui l'a motivé à dire, on va y aller ensemble. Puis là, il se retrouve dans une activité. Puis là, il y en a d'autres qui vont y parler. Fait que la semence, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent. Puis là, whoops, au bout de X temps, il y a une moisson qui se fait, une récolte. C'est pas un travail instantané, c'est un travail à long terme. Combien de temps que ça a pris avant que vous acceptiez Jésus? Entre la première fois que vous l'avez entendu parler, puis la journée que vous avez accepté de vous engager à suivre Jésus-Christ, combien de temps? Moi, ça a pris 1 an. Mais, il y en a que ça a pris 20 ans. Mon frère, ça a pris 20 ans. Fait que, on ne sait pas combien de temps, mais il y a un travail de semer, d'arroser, puis c'est Dieu qui fait croître. Puis là, il y a une moisson. Puis là, on va se réjouir à la fin de l'histoire. On va se réjouir de revoir ces gens-là. Il y a peut-être des gens que vous avez évangélisés dans votre chemin présentement, dans votre vie, puis qui n'ont pas accepté Jésus, puis vous allez les revoir au ciel, parce que 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard, cette personne-là, elle a entendu une autre personne, puis là, elle a donné sa vie au Seigneur. On va être surpris de voir comment est-ce que Dieu a travaillé dans le monde pour amener toutes les âmes. Il y en a que c'est nous qui les a semés pour la première fois, Il y a des fois que c'est nous qui a arrosé, puis il y a d'autres fois que c'est nous qui a moissonné. Mais c'est un travail d'équipe. On n'est pas en compétition avec les églises. Puis si une personne accepte le Seigneur dans une autre ville, elle va dans une autre église. Mais gloire à Dieu quand même. La moisson a été faite, on a fait notre part, on a semé, donc on a où on a arrosé, mais c'est Dieu qui a moissonné, puis il l'a envoyé là. Amen. Des fois, on peut dire, oh, moi, je travaille plus dans l'évangélisation, il n'y a pas personne qui vient dans mon église. C'est pas ça, l'histoire, c'est que tu vas te réjouir avec Dieu un jour, lorsque celui qui sème, celui qui moissonne, vont se réjouir ensemble de voir cette moisson-là qui a été faite. Fait que Dieu voit votre travail, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis celui qui va travailler va récolter. Ceux qui font rien, qui parlent pas de Dieu, puis qui font pas rien, mais il n'aura pas de récolte. Ils participeront pas à la récolte, ni semer ni arroser, parce qu'ils le font pas. Ça se fait pas tout seul. Il faut ouvrir la bouche, faut aller porter des pamphlets, faut faire quelque chose pour rentrer dans le travail de Dieu. Jésus a dit mon travail. C'est ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il dit, je suis venu pour faire cela. Puis là, je vois que les champs blanchissent, puis je suis heureux. Jésus était heureux de voir que des gens répondaient par la foi. La moisson est en train de se faire. Puis nous, on est appelés à faire partie de ceux qui travaillent avec Jésus puis cette moisson-là. La semence qu'on sert, quelle semence qu'on veut semer? Qu'est-ce qu'on veut répandre aux gens? On veut répandre la parole de Dieu. Mais précisément, le message du salut, c'est ce qui ça. C'est, tu peux parler de la parole, mais si tu parles du roi David, il a tué Goliath, oui, c'est vrai que c'est. Mais ça n'amène pas la personne à prendre position pour les choses qui l'amènent à être sauvée. Il y a des connaissances dans la parole de Dieu que ce n'est pas les prioritaires, les premières choses qu'on doit savoir. Les premières choses qu'on doit savoir, c'est la semence du message du salut offert en Jésus-Christ. Puis c'est le même message pour tout le monde. Parce que si tu ne passes pas par ce chemin-là, mais tu n'es même pas né de nouveau. Si tu n'as pas compris que Jésus t'a mort à la croix, si tu n'as pas compris que Dieu existe, puis que tu es pécheur, puis que Jésus est venu payer la dette des péchés, puis tu te repentes et tu le reçois. Si tu n'as pas compris ces choses de base-là, tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore sauvé. Tu peux avoir appris plein d'affaires de la Bible, puis pas avoir appris les bonnes affaires. Les bonnes affaires qui servent pour te sauver, c'est Christ, puis Christ crucifié. Puis ta repentance d'accepter Jésus-Christ avec foi, puis là tu le suis, puis tu persévères dans la foi. C'est ça le vrai chemin. C'est ça qu'il faut expliquer. Les paroles de la foi qui amènent que les gens s'accrochent à Dieu, qui confessent Jésus, puis qui espèrent en Dieu. Dans Romains 10, le verset 8, ça nous dit, « Que dit-elle donc? » Mais il dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, faut t'amener les gens à confesser qu'ils croient en Jésus. Pas juste le savoir dans leur tête. Faut qu'ils prennent position publiquement pour Jésus. Autant que tu veux te marier, tu dis « Oui, je le veux ». Tu le confesses, puis tu le signes sur le papier. Aujourd'hui, il y a un papier, un contrat en plus. Mais pour le salut, tu n'as pas besoin de signer de papier. Juste le confesser de ta bouche en croyant du cœur. Au verset 9 de Romains 10, ça dit, si tu le confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, puis on sait pourquoi il a été ressuscité des morts, afin de remporter la victoire sur la mort puis sur le péché. Si tu y crois à tout cela, mais tu peux être sauvé. Il dit, si tu le confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à être justifié, puis c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Puis il dit le verset 11, « Selon ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. faut amener les gens à comprendre qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Faut qu'ils invoquent Jésus-Christ. Faut qu'ils demandent à Jésus-Christ de pardonner leurs péchés puis de changer leur vie. Faut qu'ils croient que Jésus-Christ est mort sur la croix puis qu'il est ressuscité pour notre justification. Il est allé porter son sang dans les lieux célestes. Faut qu'ils croient que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être sauvé. S'ils croient, puis ils répondent à l'appel, puis ils confessent leur foi, bien Dieu les pardonne parce que le Seigneur il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Que tu sois un juif ou que tu sois un Québécois, peu souche, faut que tu confesses la foi en Jésus-Christ, ta foi. Faut que tu confesses que tu crois au message de l'Évangile, le message qui sauve. Le reste, c'est en deuxième. Commence par croire les bonnes affaires, puis confesser que tu crois que Jésus-Christ a tout accompli pour que tu puisses être pardonné. Si tu passes par cela, tu vas être sauvé. C'est le même message pour tout le monde. Puis c'est ça la semence qu'il faut semer. Faut semer ça où? À tout le monde qui sont autour. C'est ça que je vous disais au début, il y a une guerre présentement. Le diable, il garde déjà captif l'ensemble de l'humanité, parce qu'il y a un verset qui dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Puis Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il a commencé par payer la dette du péché. Il a eu la victoire sur la mort. C'est lui maintenant qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est plus le diable. Puis il a pris les âmes qui ont mis leur foi en lui, il les a emmenés dans un autre lieu qui s'appelle le Saint d'Abraham, le lieu des croyants, la consolation pour ceux qui attendent leur résurrection. Puis c'est ça le travail que Jésus est venu faire. Puis il est venu nous expliquer c'est quoi la vérité. C'est tout écrit dans le Nouveau Testament. C'est le message qu'il faut semer, le répandre à tout le monde. La mission qu'on a, c'est qu'il faut amener les gens, avec l'aide du Seigneur, à invoquer Dieu pour leur salut et les garder à marcher selon la parole de Dieu. Parce que c'est beau de l'accepter, mais il faut que ces gens-là gardent la foi jusqu'à la fin. C'est ça notre mission, d'amener les gens à invoquer Dieu, puis une fois qu'ils ont invoqué Dieu, les amener à les enseigner pour qu'ils deviennent des disciples, des gens qui comprennent la parole, qui deviennent fermes, inébranlables, qui persévèrent, puis qui travaillent à leur tour dans l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, ça nous explique, dans ce verset-là, un commandement du Seigneur qui nous demande à nous, ses disciples, un ordre bien spécifique, d'aller voir, que c'est notre mission d'aller faire des nouveaux disciples, d'aller chercher des nouveaux disciples, puis de les enseigner à ce qu'ils observent la parole de Dieu. On voit ça dans Matthieu 28, le verset 19. Ça nous dit, Jésus est en train de parler à ses disciples. Allez! Faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, prêche, peu importe quelle race qu'il y ait, même si c'est un arabe musulman, prêche la parole, faites de toutes les nations des disciples. Un romain, un juif, un italien, je veux dire, pas un romain, il y en a plus des romains, mais des italiens, des français, l'Angleterre, hein? Oui, mais c'est pas une race, c'est une ville, c'est des Roms. Roms n'est pas un pays. Non, Roms c'est une ville, tandis que nous c'est une province, c'est même pas un pays, c'est des Canadiens, nous sommes des Canadiens. Fait que allez parmi toutes les nations, allez, il y a 170 pays, 175 pays dans le monde, mais... On n'a pas à faire de distinction. Jésus dit aller parmi toutes les nations. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Faites de toutes les nations des disciples. Fait que notre job en tant que chrétien, autant que Jésus, sa job, il dit ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Puis là, il est intéressé à se nourrir de voir les nouvelles âmes qu'il accepte. Puis il nous dit à notre tour, allez, puis faites de toutes les nations des disciples. Ça devrait être notre mission. De vouloir faire des disciples, de vouloir en faire de peu importe qui se commence, qui s'appelle, peu importe son background, parce qu'il y en a des criminels, des pays criminels qui sont converti à Jésus, autant que des personnes qui étaient des bonnes personnes, mais des bonnes personnes devant Dieu, c'est toujours relatif, là, il n'y a pas de bonnes personnes. Il y avait un Jésus qui était bon, puis même lui, il n'acceptait pas de se faire dire qu'il était bon, mais il y a des gens qui sont, selon le standing de ce qu'on peut appeler moyennement bon, bien ordinaire, du monde pas plus pire que les autres, c'est pas des criminels, puis ils ont accepté Jésus. Il faut pas être regardant. Peu importe son état, si c'est un pauvre, peu importe son état, si c'est une personne malade, handicapée, ou quelqu'un qui est illettré, ça n'a pas d'importance. Prêche à toutes les nations, faisant des disciples. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que c'est pas juste de lui faire accepter Jésus. Faut que tu les amènes dans un lieu où ce qu'ils vont pouvoir recevoir de l'enseignement de la parole de Dieu pour qu'eux autres même puissent comprendre le plan de Dieu. Une personne qui accepte Jésus puis est livrée à elle-même, comment est-ce qu'elle va pouvoir comprendre ce que Dieu lui demande? Jésus veut pas juste des gens qui votent pour lui. Il veut des gens qui marchent pour lui, qui marchent dans sa parole, qui marchent dans sa volonté, qui connaissent sa parole, mais qui la mettent en pratique. Jésus s'attend à ce qu'on leur enseigne à observer ce que Jésus a prescrit. Puis là, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est notre grande commission, c'est notre mission, frères et sœurs. Pourquoi qu'on est ici, là, présentement? C'est sûr, là, on est dans le moment, deux heures le dimanche, une heure et demie le mercredi, des fois le vendredi, on reçoit un peu de nourriture spirituelle, de l'enseignement, des explications pour nous former. Puis on grandit dans le Seigneur, mais chacun de nous, on a une responsabilité de lire la Bible chez nous, de la méditer, de réfléchir, prier Dieu pour comprendre, puis etc. Dieu va vous former, mais Dieu il a un travail à vous faire, à moi autant qu'à vous. Puis pas rien qu'à nous ici, tous les chrétiens sur la terre, c'est leur mission. Tous les chrétiens devraient être en train de travailler à cette mission. Jésus a dit à ses disciples, allez, puis faites de toutes les nations des disciples. Et après ça, enseignez-leur à observer. C'est la mission de tous les chrétiens dans toutes les églises que vous connaissez. Puis ça l'est aussi pour les chrétiens qui vont dans aucune église. Ils devraient commencer premièrement par joindre une église parce que ça fait partie du plan de Dieu qu'un chrétien aille dans une église, qu'il soit greffé au corps de Christ, qu'il marche avec les frères et sœurs, puis qu'il apprenne à servir dans l'église. Mais on a la partie église, tout ce qui se passe à l'interne, les petits services qu'on fait, puis il y a une grande commission. Sortons de l'église, puis allons parler de Jésus à ceux qui nous entourent.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu qui se lève pour dire Amen. Gloire à Dieu. Il faut sortir de notre insensibilité. On est-tu vraiment sensible que tout ce monde-là qu'on voit dehors, ils s'en vont dans l'étang de feu pour l'éternité à cause de leur péché? Puis qui connaissent pas le moyen de s'en sortir, on est-tu sensible ou on s'en fout?
On est sensible.
Il faut être sensible. Mais là, je vous pose la question, nous le sommes-tu vraiment sensible ou on s'en fout? Faut pas s'en foutre, frères et sœurs. C'est catastrophique, c'est grave. Tout ce monde-là qui vont pleurer et grincer des dents pour l'éternité parce que s'ils n'ont entendu, là, c'est sûr que là, s'ils ont refusé, ils ont eu au moins la possibilité, mais s'ils n'ont pas entendu parler. Il faut sortir de notre insensibilité puis de demander à Dieu de nous diriger et de nous responsabiliser à prendre notre part dans cette mission. On a tous une part de travail à faire dans cette mission. Puis Dieu va nous équiper, il va nous aider, il va nous mettre en nous la formation, il va nous donner les révélations, il va nous guider par son Saint-Esprit, il va nous amener à combattre dans la prière pour les ceux qui nous entourent. Il va nous former, mais il faut qu'on réalise qu'on a besoin d'être formé, puis qu'on accepte d'écouter Dieu. On est son armée du salut. L'armée qui travaille à sauver les âmes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. Avez-vous déjà remarqué? Il y a quelqu'un qui a été vous voir, puis il a osé vous dire, Jésus peut t'aider. Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Peut-être que la personne a y été dans sa manière de ses mots, parce que c'est pas un, on n'est pas tous des évangélistes. A y été dans ses mots, elle a combattu ses blocages, parce que tout le monde en a des blocages d'ouvrir la bouche, puis des, tu forces, puis t'as des combats, peu importe les combats, puis tu oses le dire, puis des fois ça sort, pas quand c'est quasiment plus frappant que bénissant de le recevoir. Puis là, parce qu'il y a des fois, il y en a qui ont entendu parler de Jésus, puis c'était en se faisant reprocher comment ce qu'il était. Tu parles de Jésus à quelqu'un, puis tu dis, « As-tu vu comment c'était pas de bon sens de la manière que tu parles? Tu devrais arrêter de jurer ou de blasphémer, puis tu devrais te mettre à croire en Jésus. » Mais là, c'est sûr que... C'est ça, là, ça peut sortir carré, comme ça peut sortir « Je t'encourage. » Là, il faut vraiment que tu... Là, tu mets des... T'essayes, mais là, je sais qu'on est tous différents. Notre manière de... Notre approche pour parler aux autres, déjà, c'est compliqué. Mais il faut quand même le faire. Puis si tu as de la misère à le dire, mais prends des pamphlets, puis dis-y qu'hein, tu liras ça quand tu auras 2 minutes. Puis le plan du salut est tout écrit. J'en ai des beaux pamphlets, puis justement, j'ai des étiquettes à faire. On en parlait après la réunion. Parce qu'on veut y aller évangéliser. Amen. Gloire à Dieu. On veut y aller. On veut que la parole de Dieu soit répandue dans notre ville. Puis mec, on est fini, on arrêtera. Non. Mec, on est fini, on y ira dans une autre ville. Amen. Oui, je vais en parler. Amen. Gloire à Dieu. Faut sortir de notre insensibilité et demander à Dieu de nous diriger et nous responsabiliser à prendre notre part dans cette mission. On a une part. C'est pas si ça nous tente. On devrait tout avoir compris que Jésus est en train de nous parler dans ce verset-là. Allez parmi toutes les nations. Puis faites des disciples et enseignez-leur. Vous allez dire, oui, peut-être, je suis pas celui qui va enseigner. Oui, c'est vrai, peut-être, mais tu peux être celui qui va inviter. Ça prend quelqu'un qui invite, ça prend un autre qui va l'encourager, puis l'autre va le visiter, puis l'autre va prêcher pour expliquer. Fait que c'est un travail d'équipe. Celui qui sème, celui qui moissonne, se réjouissent ensemble, mais qu'on ait des récoltes. Amen. Romains 10, 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Gloire à Dieu! C'est pas si complexe que ça de croire en Jésus, c'est de le confesser avec la foi. Mais dans ce verset-là, si on lit l'autre verset après ça, « Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » C'est impossible. Ils peuvent pas invoquer celui qui n'ont pas cru. Fait que si les gens ils sont ignorants de c'est quoi le plan de Dieu, comment est-ce qu'ils vont être capables de l'invoquer? Comment est-ce qu'ils vont être capables de crier à Dieu et demander que Jésus, que l'œuvre de Jésus puisse purifier sa vie? S'il n'a jamais entendu parler, c'est impossible. On continue ce verset-là. Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Là, ça devient complexe. Là, on est en train de dire, les gens, ils n'ont pas cru, fait qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Mais comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui en parle? Le monde de Beauharnois ne peuvent pas être sauvés s'ils n'entendent pas parler de Jésus. Où est-ce qu'ils vont en entendre parler? Par qui est-ce qu'ils vont en entendre parler? Amen! Gloire à Dieu!
Il ne faut pas avoir peur de parler parce que le Seigneur va nous donner les paroles.
Oui. Amen. Oui. Il dit, ouvre la bouche et je la remplirai. C'est ça que Dieu dit dans sa parole. On continue le verset 15 de Romains 10. Il dit « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Comment est-ce que les gens vont mettre leur foi s'ils n'entendent pas parler? Comment est-ce qu'ils vont avoir la foi s'ils n'entendent pas parler? C'est impossible. Comment est-ce qu'ils vont entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Puis comment est-ce qu'il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et de où vous pensez qu'ils vont sortir les prédicateurs, les prêcheurs, les porteurs de la bonne nouvelle? Soit avec leur bouche ou des pamphlets ou peu importe la méthode, bien, de où est-ce qu'ils vont sortir, vous pensez, les prédicateurs? Ceux qui vont aller annoncer la bonne nouvelle à tout ce monde-là. De tous ceux qui le connaissent déjà. Ses disciples. Parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. L'évangélisation, comme que notre sœur l'a mentionné tantôt, ça commence par la prière. C'est entouré par la prière, puis c'est suivi par la prière. Pensez pas que juste vous-même, que les gens vont accepter Jésus parce que Daniel Poulain lui dit que non. Il s'en fout de ce que Daniel Poulain pense. Mais si tu pries, c'est Dieu qui va parler à travers de ta bouche. Puis là, Dieu va agir dans le cœur. Dieu va convaincre. Dieu va les amener où ce qu'ils doivent pour comprendre le message. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, ça nous dit, Paul qui parle, « J'exhorte donc avant toute chose. » Avant toute chose, ça veut dire avant de faire quoi que ce soit. La première affaire qu'on doit faire avant de faire quoi que ce soit, c'est à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit la première chose à faire, commencez donc par prier pour tous les hommes. Fait qu'on est déjà en train de prier pour tous les hommes. Nous prions pour les personnes qui sont autour. À l'église, le mercredi, on prie, mais c'est juste pour nous aider à nous booster dans nos prières pour que dans la semaine, on continue à prier. Le matin en se levant, la journée longue, on peut parler à Dieu continuellement, puis de toujours présenter à Dieu les gens qui nous entourent. C'est notre mission, notre première mission. Avant quoi que ce soit, prions. Prières, supplications, des requêtes avec des actions de grâce, des remerciements. Pour tous les hommes. Puis vous allez comprendre dans ce verset-là pourquoi, au verset 2, ça dit pourquoi qu'il faut prier avant de faire quoi que ce soit. Il dit « Priez pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Ça, c'est les rois, les ministres, les premiers ministres, les députés, les maires, les juges. « Afin qu'on mène une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » C'est bon qu'on prie pour tous les hommes et pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui mènent le pays, ceux qui font passer des lois pour sécuriser ou pour interdire, puis on veut que notre pays demeure libre. Il faut prier pour qu'on ait la liberté de continuer à répandre la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Puis regardez le sens profond, là, c'est le prochain verset. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans ce contexte-là que Dieu dit cela. Il dit, avant de faire quoi que ce soit, mettez-vous à prier. Priez aussi pour les ceux qui dirigent votre pays pour que vous ayez une vie paisible et tranquille, parce que Dieu veut toutes les sauver. Dieu veut toutes les sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés. S'ils ne le sont pas, c'est pas parce que Dieu ne le voulait pas. Si une personne s'en va dans l'étang de feu à la fin, c'est pas parce que Dieu voulait l'envoyer dans l'étang de feu. C'est parce que la personne a refusé la bouée de sauvetage que Dieu a envoyée. La personne s'en va là à cause qu'il n'a pas cru au message de l'Évangile. Dieu a voulu sauver tout le monde par la prédication de la foi, la prédication de la croix. Il veut sauver tout le monde par Jésus. C'est son plan. Fait que c'est pas parce que Dieu voulait pas qu'il soit sauvé. Il a rendu ça tellement simple. S'il aurait dit, payez 100 000 piastres chaque, puis vous allez rentrer. Mais il n'y a pas qu'un qui n'aurait pas été capable de le payer. Vrai ou faux? Il a rendu ça tellement facile, t'as juste besoin de croire puis de t'engager à le suivre. Ça coûte-tu quelque chose? Oui, ça coûte que tu vas être obligé de changer de vie. Oui. Dieu nous appelle à changer de vie. Il veut plus qu'on vive dans le péché comme qu'on était avant. On se repent de nos péchés, puis là, on va à Jésus pour en être pardonné, puis là, il nous en libère. Il sort le péché de notre vie. Il veut changer notre vie. C'est ça le but de Dieu. Chaque individu sur la terre peut changer sa vie, changer de voie. Il s'en va vers la voie de la perdition parce qu'il est rebelle à Dieu. Puis là, Dieu, il dit, je te donne une occasion de croire en mon Fils puis de recevoir le pardon. Reçois-le maintenant, puis change de voie. Dieu dit, je veux pas que le méchant périsse. Je veux qu'il change de vie et qu'il vive. C'est ça que Dieu veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Fait que, prions pour tous ceux qui nous entourent. Prions pour notre pays en tout entier. Prions, parce qu'il y a aussi un autre verset au niveau de la prière. Il dit que la moisson est grande. Dans Luc 10, au verset 2, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire, priez pour que les gens soient sauvés. Priez aussi que Dieu envoie des ouvriers. Il y en manque d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a le Canada, juste dans le Canada, on est quoi, 30 millions là présentement, 28, 35? 35 millions, il n'y a pas 35 millions de croyants. Mais il y a 35 millions juste dans le Canada à atteindre. Ça n'en prend-tu du monde qui sort pour aller évangéliser? Prions pour les gens, prions pour les dirigeants pour qu'ils nous passent des lois, qu'on ait la liberté d'agir. Prions Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Où est-ce que Dieu va les prendre, ces ouvriers? Dans l'Église. Dans tous ceux qui connaissent déjà le plan. C'est nous. C'est notre tâche. On va prier que Dieu, autrement dit, on va prier que Dieu nous envoie.
Amen.
Gloire à Dieu. Non, je regarde l'heure. Puis, il m'en reste encore 3-4 versets. Ce que je vais faire, on va arrêter cela pour aujourd'hui. Il y aura une suite la semaine prochaine, si Dieu le veut. Frères et sœurs, c'est important de comprendre que c'est notre travail à faire. Je vais vous lire quand même un verset pour vous mettre dans cette idée-là. Là. Que le Seigneur nous a déjà établis pour la moisson dans notre territoire. Dans Jean 15, le verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Wow! Nous sommes choisis par Jésus. Et, Jésus qui dit ça, « Je vous ai établi. » Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Il nous a choisi et il nous a établi afin qu'on aille et qu'on porte du fruit. Où sommes-nous établis? Il nous a choisi puis il nous a établi. C'est lui qui nous a emmenés ici, là. Quel travail avons-nous à faire? Évangéliser la ville de Beauharnois, en commençant par Beauharnois, Mercier, Châteauguay, et jusqu'aux extrémités de où ce qu'il nous amènera. Amen. On est là. Il a dit la même chose à ses disciples. Il dit, d'aller évangéliser, vous allez être des témoins dans Jérusalem. Il habitait à Jérusalem, les premiers disciples. Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ben nous, il nous dit, je vous ai choisi, puis je vous ai établi à Beauharnois. Puis allez à Beauharnois, Mercier, Châteauguay, et jusqu'aux extrémités de où ce qu'il nous emmènera. Amen.
Amen.
Ben, travaillons pour le Seigneur. Ce qu'on peut faire, on va faire une prière au Seigneur pour lui demander d'enlever, de changer notre insensibilité face aux âmes perdues. Qu'on considère l'importance que ces gens-là entendent parler de Jésus. Peu importe la manière qu'on va se servir pour les atteindre, toutes les manières sont bonnes du moment que le bon message passe. Puis, prions aussi qu'ils nous mettent un feu dans nos cœurs pour avoir une passion des âmes, qu'on soit passionné, qu'on soit en feu de vouloir voir les gens sauvés, puis qu'on dise « Seigneur, envoie-moi », qu'on se mette à prier pour nous-mêmes pour être envoyés, qu'on prie pour ceux qui nous entourent, qu'on puisse s'attendre à ce que Dieu les sauve et les amène, en commençant par nos familles, nos amis, nos compagnons de travail et même nos contemporains. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole et tout ce que tu nous révèles. Seigneur, je confesse mon insensibilité au salut des âmes qui m'entourent. Je confesse que je suis souvent concentré sur mes choses à moi et non pas ta volonté. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute notre froideur face à cette œuvre-là que tu nous appelles. Je te demande, Seigneur, de mettre en nous la passion des âmes, le feu, un zèle de pouvoir aller de l'avant, puis d'aller évangéliser, puis de parler de toi à tous ceux qui nous entourent. Mais en nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous dis de prier, d'envoyer des ouvriers, mais prends ma vie, je la donne, puis guide-moi dans cette œuvre, envoie-moi, conduis-moi, ouvre les portes, puis sauve les âmes qui nous entourent. Je te remercie de ce que tu veux faire à travers de nous, puis nous remettons nos ventres à tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.